On se tutoie
sur Nostalgie. Jean-Luc Reichmann.
Salut Jean-Luc.
Salut.
Salut Jean-Luc.
Et comment ça va? Ouais, je sais. Je sais, sur les réseaux sociaux, vous me dites maintenant « on se tutoie ». C'est plutôt sympa. Et puis vous me dites « d'accord, Marc Lavoine ». Obispo, Polnareff, Dubosc, Louis Bertignac, c'est bien beau, mais les femmes, où sont les femmes? Les femmes sont rares sur Nostalgie le vendredi soir. Donc, eh ben écoutez, après Jeanne Masse, en cette veille de la Journée internationale du droit des femmes, au vu de la charge mentale de mon invité, oui, je décide tout de go d'inviter une amie, une vraie mère de famille, afin de tenter d'alléger son quotidien et surtout d'essayer de la décharger mentalement avant de prendre la route du week-end. Au rythme de la vie, au rythme de l'envie, nous nous sommes croisés, recroisés, décroisés sur les plateaux télé, et toujours sa voix, sa sincérité, sa spontanéité et l'émotion qu'elle transporte, qu'elle me transporte à chaque fois, sont restées intactes. Point de panique dans l'oreillette entre nous. Point de fébrilité lorsqu'à gorge déployée, à cœur ouvert, elle chante avec Diams, Aznavour ou Johnny Hallyday. Depuis son statut de nouvelle star à 20 ans, elle est passée du petit écran aux plus grandes scènes internationales, en imposant toujours son style unique, sa puissance vocale et son hypersensibilité à fleur de peau. Les batailles silencieuses, comme elle les nomme si élégamment, elle les connaît et elle prouve que le talent et les combats, c'est comme l'amour. Quand c'est vrai, ça dure longtemps. Intemporel, voire même devenu essentiel. Bien plus que sa vie, la musique est devenue une vraie philosophie. Malgré les peines, les différences, toutes les injures incessantes, elle a décidé de faire un tri, y compris dans les factures qui lui restent encore de 2004. Et elle continue de lever le poing encore plus haut, encore plus loin. Nos combats sont les mêmes, malgré les différences, être acceptés comme nous sommes avec nos ressemblances et viser la lune, même 20 ans plus tard, ça lui fait toujours pas peur. Bonsoir Mel Bent.
Waouh. Bonsoir.
Ça va?
Bah oui, c'est très émouvant. Hein.
Ouais, ça fait un petit moment qu'on se connaît.
Ça fait un petit moment, ouais.
Qu'on se côtoie. Alors, je suis très très heureux, hein, parce que c'est suffisamment rare de te voir aussi en ce moment, mais je crois que maintenant tu vas mettre un petit peu le pied dedans, parce qu'il va se passer plein de choses. Immense carrière, évidemment, depuis plus de 20 ans. Impossible de mettre tout ça par écrit. Alors pour moi, ça a été dur de choisir. Et puis pour les auditeurs qui se rappellent plus ou qui te connaissent pas obligatoirement très bien, ça a commencé en 2004. Donc il y a 21 ans, d'accord,
hein? C'est ça.
Tu n'es plus une jeune fille.
Non.
Et tu te fais connaître en participant à La Nouvelle Star. Et puis alors là, il y a un titre en 2004, c'est ça. And I... Ça c'est fort ça, non? Ça commence très très fort pour toi en 2004, non?
Bah, cette émission de télé, c'était mon énième... tentative.
Ouais, parce que non, mais c'est ça. Il y a eu quand même un parcours quand même assez houleux, délicat, douloureux pour en arriver jusque là.
Moi, j'ai commencé tôt. En fait, j'ai commencé à 12 ans les castings. Donc, Nouvelle Star, c'est 6 ans après mes premiers essais.
Ouais.
Et c'est vrai qu'on m'a toujours fermé la porte, mais avec des mots et des façons de faire qui m'ont à chaque fois un petit peu blessé, je perdais un petit peu espoir, j'avoue.
C'est-à-dire qu'ils te disaient quoi, les jurys ou tous ces gens-là, trop jeune, adolescente
Non, c'était plus sur le physique, on va dire.
Ah ouais, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire donc sur ces fameuses différences que tu apprenais après. Et en même temps, voilà, on a tous nos corpulences, nos différences. Tu vois, moi, je me suis battu comme un fou avec ma tache sur le nez. Et toi, il a fallu aussi que tu t'imposes.
C'est vrai, mais en fait, ça m'a ramené à des choses que je voyais pas moi en tant qu'adolescente devenir chanteuse, c'était un rêve vraiment inaccessible. Mais on a tous besoin de rêver.
Comment on y retourne sans arrêt? Parce que à chaque fois, tu prends un pic dans le cœur et tu te dis non, je vais y arriver. T'es poussé par les parents, t'es poussé par l'entourage. Comment ça
non,
se passe?
Non, 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 j'étais poussé par ma propre folie. En fait, c'est trop bizarre ce que je vais dire, mais quand j'étais toute jeune, donc 12, 13, 14 ans, en fait, c'est comme si à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui savait avant moi qu'il allait se passer quelque chose. C'est trop bizarre. C'était comme une conviction.
Ouais.
J'avais comme une flamme à l'intérieur qui me disait, il faut que tu y retournes parce qu'il va se passer quelque chose. En fait, j'étais sûre qu'il allait se passer quelque chose, Mais je savais pas quoi, et la réalité me ramenait plutôt au fait qu'il allait absolument rien se passer et qu'il fallait que je me batte dans mes études, etc. Mais quand j'abandonnais, bah, quelques jours, quelques semaines après, il y avait encore cette flamme à l'intérieur qui me disait non, il faut que tu y ailles, il va se passer quelque chose. Je me souviens, ma mère, elle avait peur, elle me disait stop, faut que t'arrêtes. J'arrive en retard à l'école le matin parce que souvent ça se passait tard le soir, les castings. Et je me rappelle, je pleurais parce que je disais, mais maman, je te jure, il va se passer quelque chose. Elle me disait, mais pourquoi il se passerait quelque chose pour toi? Il y a des millions de gamines qui rêvent de chanter, il y a des millions de gamines et de gamins qui rêvent de devenir des stars. Pourquoi toi? Je disais, je sais pas, mais il va se passer quelque chose. Et à chaque fois, je me disais, allez, c'est le dernier. Et Nouvelle Star a été le dernier casting.
C'est un message d'espoir extraordinaire pour tous les ados et tous les jeunes qui nous écoutent, évidemment. Et puis tu n'as, en fait, si on résume un petit peu, tu as toujours eu l'œil du tigre quelque part, évidemment. Comment elle est venue cette chanson là?
Ah bah ça a été une proposition pour la bande originale d'Astérix et les Vikings.
Ouais.
On m'a appelé un jour, on m'a dit « Est-ce que ça te dit de chanter cette BO ?» Et en fait, c'est devenu une chanson de mon répertoire que j'ai longtemps chantée même sur scène. Bon, évidemment, j'ai grandi, je suis génération Rocky, je connaissais la chanson by Survivor.
C'était pas ma guerre.
C'était un peu ouais, ça, ouais. Fan de Stallone et tout. Et puis, chanter cette chanson, c'était assez dingue, quoi. Et puis moi, comme j'aime aussi l'énergie rock, et ça se voyait pas beaucoup à l'époque, parce que c'est pas du tout la direction artistique que je prenais, ça me faisait du bien de chanter cette chanson qui était pleine de gratte, avec une énergie différente du cadre que moi je m'imposais musicalement à l'époque.
Déjà. Alors le truc de dingue quand même, c'est la rencontre, évidemment en 2004, avec Madame Diams. Ça, ouais, il ça faut c'est... que tu m'expliques comment ça se passe cette rencontre, parce que de temps en temps, il y a des petites fées, il y a des petits coups de baguette magique qui arrivent dans la vie. Et la rencontre avec Diams, c'est vraiment un petit miracle ou pas?
Ah oui, clairement. Quand je signe avec ma maison de disque à l'époque, avec BMG, on me dit un truc que je pensais pas qu'on pouvait dire, c'est avec qui tu voudrais travailler. Et ouais, en vrai, j'avais le droit de dire tout le monde et n'importe qui.
Ouais.
Moi, j'étais très, très admiratif, très fan de Diams, je la connaissais pas du tout. Mais dans ses textes, je me retrouvais beaucoup et je me suis dit, il faut absolument est-ce que je peux rencontrer Diams? Et à l'époque, elle était déjà, je crois, en tournée, donc elle m'avait envoyé une chanson et j'avais dit, mais la chanson est sublime, mais moi je pense qu'il faut qu'on se rencontre.
Ouais.
Et évidemment, elle a accepté. On s'est vu dans les bureaux de chez BMG et elle m'a dit de quoi t'as envie de parler, qu'est-ce que t'as envie de chanter. Et là, je lui ai balancé tous mes espoirs, tous mes complexes et on a commencé à écrire ma philosophie.
D'accord, et vous l'avez écrit ensemble?
Ce jour-là, le jour de notre rencontre.
Histoire de dingue. Et bien justement, une philosophie de vie ce soir sur la route du week-end. On écoute évidemment cette belle philosophie. Je suis très très fier de t'avoir parce que voilà, c'est la journée internationale des droits de la femme demain, mais tu es une très belle âme et tu le sais. Sur Nostalgie, merci. Sur cette route du week-end, on se tutoie avec Amel Bent, figurez-vous. Soyez prudents sur la route. Bon week-end à tous.
Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis.
Toujours le point levé et puis toujours ces combats. Elle est comment, Diams, avec toi la première fois que tu la rencontres? Parce que si vous nous rejoignez, c'est bel et bien Amel Bent que nous recevons ce soir sur la route du week-end.
Elle a tout de suite vraiment été comme une grande sœur.
Ouais.
Elle a jamais cessé de l'être. C'est vraiment quelqu'un qui a une générosité d'âme, qui est hyper sensible, qui en tout cas elle a lu en moi vraiment comme dans un livre ouvert.
Elle t'a scanné quoi.
Elle m'a scanné, elle a compris, en fait elle a compris exactement ce que j'étais, où j'en étais sur mon chemin à tous les niveaux. Et derrière, on a beaucoup écrit ensemble et elle m'a même, c'est la première qui m'a poussée à écrire, qui m'a dit franchement, t'as une plume, il faut que tu t'en serves. Écris. Et moi je me suis jamais sentie légitime à écrire seule. Et c'est elle qui m'a poussée la première fois.
Toujours en contact avec elle aujourd'hui?
Oui.
Ouais.
Oui. Toujours comme une grande sœur. Le petit conseil, le petit mot d'amour, d'amitié, de grande sœur.
Extraordinaire quand même, Diams, de tout arrêter, de tout éclater dans sa vie pour être en accord, en osmose totalement avec ses pensées aujourd'hui. Tu serais capable de faire ça, toi, ou pas?
Je crois qu'il faut toujours se choisir soi.
Ouais.
Et c'est ce qu'elle a fait.
Ouais.
Donc, pour moi, c'est une belle leçon de féminisme.
D'accord, c'est le cas de le dire. À la veille de cette journée, effectivement, internationale du droit des femmes. Alors, on continue. Alors, avec la rencontre, là, tu pars carrément et tu exposes tout dans ton registre. Avec Mario, Let Me Love You, on est quand même pas loin, quoi.
Wow.
Ça me fait du bien.
Ah, ça me fait bizarre, je ne l'ai pas écouté depuis 15 ans, quoi.
Voilà, remonte le son, vas-y, monte le son, Blaise. Ça fait partie des rencontres, ça, Mario. Tu peux nous dire, pour les auditeurs qui n'ont pas la référence, parce que tu chantes en anglais, là.
Ah bah Mario, c'est au moment où il sort Let Me Love You, c'est la plus grande star de R&B du moment, quoi.
Oui.
Et moi, toutes les dernières années, justement, avant de faire La Nouvelle Star, je me suis construit vraiment une discothèque R&B. C'était vraiment la musique que j'écoutais. Et chanter avec Mario, c'était un truc de fou, quoi.
Ouais.
Et je suis allée en studio avec lui, et puis j'ai posé cette chanson. J'étais trop contente, j'avais l'impression d'être un peu une américaine, quoi.
Voilà, c'est ça. Alors, à l'américaine, on va passer maintenant 3 années et sauter un album avec Obispo, Aznavour. Là, c'est quand même une histoire de fou. À 20 ans, en plus, en duo avec Diams, il y a quand même sur cet album un truc de fou. Regarde, écoute ça, là.
Une de mes préfs.
Pourquoi une de tes préfs?
Parce qu'elle me tenait à cœur. Moi, j'ai grandi vraiment avec les chansons d'Aznavour. Il chante beaucoup ses 20 ans.
Ouais.
Et c'était vraiment important pour moi de chanter l'année de mes 20 ans. Et cette chanson, on l'écrit avec Diams, l'année de mes 20 ans. Et je voulais marquer au fer cette année-là, quoi.
Et les rencontres avec Aznavour, ça se passe comment?
Ah, Aznavour, c'est une histoire de dingue.
Vas-y.
Mais ça rejoint un peu ce qu'on se disait au début, cette espèce de flamme, cette conviction, parce qu'elle part pas de nulle part, elle part de lui. À 4-5 ans, je découvre Aznavour et j'ai un... Je pense que à la fois, ça éveille mon amour et mon goût pour la musique, pour les textes, pour les mélodies, et aussi pour la mélancolie. Et je grandis vraiment avec cette voix dans mon oreille. Et en fait, c'est un peu comme si c'était une espèce de... On parlait de fée.
Ouais.
Bah, ça a été ma petite fée. Je ne savais pas à quoi il ressemblait. Il n'y avait pas les clips. Enfin, j'avais pas de CD avec son visage. Donc, franchement, je ne savais même pas à quoi il ressemblait, Charles Aznavour.
Ouais.
Mais j'avais cette voix tout le temps. Et c'est un peu comme si cette voix me guidait. Et à La Nouvelle Star, je pars, même tous mes castings, je chante La Bohème, il me suit encore, et c'est avec La Bohème que je réussis mon casting de La Nouvelle Star.
Ouais.
Je chante La Bohème pendant La Nouvelle Star, je sors de La Nouvelle Star, et un jour je reçois un coup de téléphone, on me dit « Monsieur Aznavour souhaite vous inviter à chanter à l'Opéra Garnier ». C'était une cérémonie, je sais plus, c'était pour ça concernait l'Arménie en tout cas. Et un anniversaire.
Et c'est lui qui fait la démarche de venir.
Oui, enfin, en tout cas on me dit « Il aimerait que vous soyez là ».
D'accord.
Et là, je chante une chanson qui parle aussi du temps, donc sa jeunesse, qui est ma préférée de Charles Aznavour. Et on se parle pour la première fois, j'ose même pas lui dire bonjour, je lui dis que je l'aime sans le regarder dans les yeux. Et quelques jours après, je reçois un coup de téléphone de Charles Aznavour qui me dit « Je suis en train de vous écrire une chanson, quelle est votre tessiture ?» Bon, j'ai cru que c'était un prank.
Ouais.
Je me suis dit, ça peut pas être
Charles. C'est un imitateur.
J'ai dit, je chante de tout, j'ai ma tessiture, tout ce que vous voulez.
Ouais.
Je savais même pas quoi répondre. Et en fait, il m'écrit cette chanson qui est donc dans l'album à 20 ans, qui s'appelle Je reste seule.
Ouais.
Et en fait, quand j'y repense et je me dis, comment la petite fille de 4 ans qui écoutait Aznavour, c'est mes premiers souvenirs de musique, c'est lui. Comment des années après, c'est lui qui me propose de m'écrire une chanson. Enfin, c'est ça mon miracle.
Ouais.
C'est ça ma flamme.
Il te galvanise, mais c'est qui? C'est papa, c'est maman qui, à la base, qui l'écoutait? C'est quoi? Ça vient d'où?
C'est ma mère, c'est plutôt ma mère. J'ai pas grandi avec mon père. Mais
ouais.
Bizarrement, comme justement, je manquais de mon père, je crois que j'ai aussi fait un peu
un
petit transfert, ouais. C'était la voix masculine qui m'éduquait.
Ouais.
Voilà. Aznavour m'a éduqué.
Non, mais c'est quand même assez intéressant parce que là, grand écart facial. Après, on continue la même année. On est quand même tombé pour elle. Alors là, je trouve ça merveilleux.
Je vous le dis au final, je suis tombé pour elle.
Sans fermer, qu'on pourra plus parler. Moi, je te kiffais. Impossible d'oublier toute cette année passée. Pour moi, t'étais cuit.
On dirait que tu connais bien les paroles. Alors, entre Aznavour et la fouine. Là, tu vis un petit rêve, t'es sur un petit nuage dans ces années-là, non?
Bah oui, parce que, avec toute l'insouciance qu'on a quand on a justement 19, 20 ans, 21 ans, moi je savais pas qu'il fallait choisir. Moi je voulais chanter tout ce que j'aime chanter, tout ce que j'aime entendre, écouter. Et donc,
ça veut dire quoi? Je savais pas qu'il fallait choisir, on n'a pas de choix à faire, il y a une route et il y a des rencontres sur la route.
Sur la route, on m'a surtout dit qu'il fallait que je me cadre un peu musicalement.
Ouais.
Mais à cette époque-là, les deux premiers albums, j'étais vraiment dans une liberté totale, un peu inconsciente des enjeux de la radio, etc. Où il faut un peu être identifié avec une musique. Est-ce qu'elle est chanteuse de R&B? Est-ce qu'elle est chanteuse de variété? Est-ce qu'elle est chanteuse... Moi, je m'en foutais, je voulais chanter avec les gens que je trouve talentueux.
Tu voulais pas
avec
être catégorisé,
les gens que j'admire.
Quoi.
En fait, j'avais même pas cette démarche-là dans ma tête. Bien sûr. Moi, chanter avec La Fouine, ou chanter avec Diams, ou chanter avec Obispo, ou chanter avec Aznavour, qu'importe, pourvu que je prenne du plaisir, pourvu que ça me remplisse d'émotions et que je puisse transmettre quelque chose aux gens qui m'écoutent. Et moi, je suis une fan de hip-hop, je l'ai toujours été. La musique urbaine, parce qu'on appelle comme ça aujourd'hui, mm-hmm. ça fait partie de mes influences, ça fait partie de moi. Et la variété française, ça fait partie de moi. Et moi, je voulais que dans mes albums, il y ait Aznavour, Erof, Diams et La Fouine, Maxime Le Forestier. Enfin, j'ai toujours fait des grands écarts dans mes albums avec des gens qui ne se connaissent pas et ne se sont jamais rencontrés. Pourtant, ouais. ils sont sur le même projet.
Alors dans la série, effectivement, les émotions vont bon train, comme tu le dis. Là, en 2008, ça va encore plus loin, High School Musical 3. Là, ça continue encore vers les horizons de dingue, et puis tu te laisses toutes les portes ouvertes, on est d'accord.
Bah, on m'appelle, on me fait des propositions qui sont quand même géniales, quoi. Mm-hmm. C'est-à-dire que là, c'est Disney qui m'appelle et qui me dit « Est-ce qu'on cherche la voix française ?» pour High School Musical, le volet 3, et je me retrouve sur les tapis rouges avec Vanessa Hudgens, Zac Efron,
ouais.
et faire ce clip de dingue, Vivre ma vie. Donc c'est une chanson que j'ai écrite, que j'ai réadaptée en français de la version originale.
Et t'ont laissé carte blanche là-dessus?
Ouais.
Non, parce que ça, c'est quand même beaucoup d'émotions. Monte le son de ça, parce que les auditeurs, ils connaissent pas obligatoirement High Musical 3.
Merci pour ces souvenirs. Non, franchement, non, ça fait bizarre d'entendre tout à la suite, mais c'est vrai qu'il y a eu plein de trucs.
Non, mais c'est justement cette richesse en fait qui est en toi, qui m'a vraiment surpris parce que j'ai gratté un petit peu et je me suis aperçu que 2 ans plus tard, alors je m'y attendais pas du tout, d'un seul coup, tu sautes du coq à l'âne, du coq à light, comme dirait mon fils, avec Elvis qui rime avec mon fils. Truc de dingue.
Ça aussi, personne ne sait.
Non, mais évidemment que
j'ai fait un duo avec Elvis. Ouais.
Non, mais je trouve ça génialissime.
Ouais, ouais. C'est un album international et je suis le seul duo français.
Et tu peux nous raconter l'histoire de ça?
Un coup de fil. Est-ce que ça te dit de chanter avec Elvis? Évidemment, un album posthume à l'international. Et on me propose Love Me Tender. Et en fait, j'ai la voix d'Elvis dans le casque et je l'harmonise. C'était incroyable. J'avais les larmes aux yeux. C'était très puissant.
Ça s'est passé où, ça?
Je l'ai enregistré avec Volodia, qui a été mon ingénieur du son, mon réalisateur de voix et d'albums pendant 4 albums, les 4 premiers. Donc on l'a fait à Suresnes, je crois.
Écoute ça, monte un peu le son, Blaise. Écoute cette pureté de la voix. J'aime bien quand t'es ému comme ça, ça me fait plaisir.
Parce que personne ne sait ça.
Mais c'est ce qui m'intéresse.
Il y a que ma mère qui sait. Ma fille, elle a chanté avec Elvis, c'est dur.
Je connais très très bien ta mère depuis quelques années maintenant.
C'est vrai, bah oui, tu l'as rencontrée.
On a fait Panique dans l'oreillette. Tu te souviens de ça?
Il y a plus de 15 ans
maintenant. J'ai regardé, c'était 2010 en fait. Il y avait toute ma famille, il y avait toute ta famille.
C'est vrai. C'est là qu'on s'est vraiment rencontrés.
Avec monsieur Frédéric Lopez. Ah. Donc c'est une petite histoire qui va bien et qui continue. Alors là, j'ai trouvé, enfin, Quentin. Il faut quand même rendre à Quentin ce qui appartient à Quentin. Il a trouvé un scud.
What the scud?
Alors, What the scud 2012, écoute ça.
Ma vie, ma vie, je n'en ai qu'une, mais je la veux.
C'est quoi ça?
Bah ça, c'est très émouvant. C'est une chanson que je connais depuis toujours, depuis la toute petite enfance.
Je ne la connais pas.
2 ans. En fait, ma maman me chantait quand on prenait le bus toutes les deux. Elle chantait « ma fille, ouais. je n'en ai qu'une ». Et un jour, on me propose, Michel Drucker qui me propose de faire une émission pour Dalida.
Ouais.
Un hommage à Dalida. Et là, on m'envoie un CD
ouais.
avec plein de chansons qui n'ont pas été choisies par les autres artistes.
Mm-hmm.
Et je découvre à ma manière, et j'arrive au refrain, et là, je m'effondre. Parce que je me rends compte que la chanson que me chante ma mère depuis toute petite,
ma fille.
C'est une chanson de Dalida ouais. où elle dit « ma vie, je n'en ai qu'une ». Et je dis « je veux chanter cette chanson
ouais. ».
Et là, je chante avec un orchestre philharmonique à Bruy-la-Buissière. C'était une émission pour le Tour de France.
Ouais.
Avec un orchestre, il y avait, je ne sais pas, peut-être 70-100 musiciens. Et je chante à ma manière. Il y avait même le frère de Dalida, Orlando.
Évidemment.
Et il s'est passé quelque chose de magique sur cette chanson. Et je l'ai même reprise sur un disque hommage à Dalida.
Et c'est pour ça que
c'est devenu ma chanson fétiche.
Eh ben voilà, petite chanson fétiche. C'est hyper émouvant.
Ah ouais, bah oui.
Et sur le chemin, on va faire cette petite musique que j'aime tant avec une très très belle personne. T'as fait quand même pas mal de belles, belles, belles collaborations. Et celle-là, c'en est une vraie. Sopral Marseillais.
J'ai trop saigné.
Ça, j'adore. Et voilà le frère, vous écoutez Nostalgie. Oui, je parle sur la musique. Oui, j'ai raté l'intro, mais c'est pas grave, on est en live.
Qui me résonne. Et quand je me casse, voyage toujours en pole.
Si toutefois vous venez de nous rejoindre, c'est bel et bien Amel Bent qui est avec nous sur la route du week-end. On se tutoie parce qu'on se connaît quand même depuis quelques années maintenant. Tu as vraiment l'amabilité et l'élégance à chaque fois que je t'appelle de répondre oui sur les plateaux de télé. Et puis là, à la radio, tu disais que c'était ton frère, Soprano. Quelle belle personne.
Ah oui, c'est un humain merveilleux. Et moi, je l'avais rencontré justement sur des scènes un peu plus urbaines. Mm-hmm. Et je l'avais entendu chanter. Bon, après, mm-hmm. je connaissais beaucoup ce qu'il faisait sur les psychiatres et tout. Mm-hmm. Et on me propose d'être le premier single, le premier extrait du volet 2 de Génération Goldman. Et on me dit, avec qui tu aimerais chanter? On fait des duos garçon-fille. Et moi, je dis, Soprano. Et on me dit, oui, mais il n'est pas chanteur, il est rappeur. Je dis, je crois que vous ne l'avez pas entendu chanter, le gars. C'est pas qu'un rappeur, il rappe incroyablement bien, mais il a une voix de dingue, c'est pas pour rien qu'on l'appelle Soprano.
Ouais.
Et en fait, c'est comme ça qu'on se retrouve sur le duo quand la musique est bonne. On a fait un clip à Los Angeles, un truc de malade. Et ça nous a liés aussi à vie avec Sopra pour ça. Ça a été un point de départ musical pour lui et moi. On a fait pas mal de duos derrière.
Ils t'ont tous répondu oui à chaque fois. Moi, je trouve que c'est une histoire de fou. Tu nous parles d'un duo avec Elvis.
Elvis, il a pas vraiment eu le choix.
Non, mais d'accord. Mais quand même, il t'appelle les gens spontanément. Il y a quand même une belle étoile au-dessus de ta tête, non?
C'est vrai que j'ai la chance d'avoir des jolies propositions, hein, franchement, musicalement. Et puis j'aime bien parce que c'est fidèle à mon ouverture à moi d'esprit. C'est pas que les gens de mon univers qui m'appellent, c'est des gens de tous les univers. Et ça me fait vraiment, ça me rend vraiment heureuse.
Là, il y en a un qui a dû te rendre heureuse, comme tu le dis si justement. Et c'est en 2015 quand il t'appelle très certainement et que ça donne ça.
Ah voilà.
Tu te rends compte de ta vie en 20 ans ou pas?
Pas tout. Là, ça fait. Là, je me prends une petite tarte quand même de tout entendre à la suite. Oui, mais bon, je le fais pas. Je fais pas des soirées où je dis ah bon, je vais vous faire ma carrière depuis le début.
Non, mais moi je te la fais là parce que
c'est émouvant. C'est émouvant. Il y a eu beaucoup de choses.
Écoute ta voix là.
Je te promets ma vie, de mes rires à mes
larmes. Je crois que j'ai jamais aussi peur de ma vie. Parce que j'avais déjà fait deux duos avec lui, il m'avait déjà invité à Bercy avant.
Ouais.
On avait fait Allumer le feu, qui était plus rock, plus énergique. Mais chanter Je te promets, qui est cette grande chanson à voix, etc., avec le public de Johnny, on se dit, il faut pas se rater, quoi.
Ouais. Quand t'es face à lui, qu'est-ce qui se passe?
Ah, les yeux de loup.
Ouais.
Les yeux de loup. Moi, pourtant, je suis quelqu'un qui regarde beaucoup dans les yeux.
Ouais.
C'est un des rares humains que j'ai eu du mal à regarder dans les yeux. J'avais du mal à soutenir son regard.
Ouais.
Parce que ça partait, c'est la galaxie, quoi. C'est-à-dire qu'un regard d'une profondeur, je sais pas, il y avait quelque chose. Je me rends compte à quel point c'est même pas une chance. C'est incroyable qu'il ait eu envie de chanter avec moi, qu'il m'ait invité plusieurs fois à partager la scène avec lui. La vie a fait que j'ai jamais eu l'occasion de vraiment parler avec lui, lui demander pourquoi, d'avoir vraiment un avis.
Mais c'est un instinctif tout simplement. Il a senti en toi plus qu'une flamme. C'était toi. Tu sais, il se trompait pas, hein, Johnny. Je le trouvais assez extraordinaire dans ses analyses. De temps en temps, il avait des fulgurances comme ça. Il en a une avec toi, tout simplement.
Ça restera quand même toujours des points de suspension pour moi. J'aurais aimé pouvoir échanger avec lui, parler avec lui, le connaître un peu plus. Mais bon, d'avoir chanté avec lui, c'est tellement merveilleux. Et puis, encore une fois, je reparle de ma mère, mais parce que c'est aussi un truc de génération. Ma mère, elle se faisait disputer parce que dans ses cahiers d'école, elle collait des photos de lui et de Sylvie Vartan.
Ouais.
Et elle se faisait vraiment gronder parce qu'elle travaillait pas. Elle était fan de Johnny et de Sylvie.
Ouais.
Et voir sa fille quelques années plus tard sur la même scène chanter avec Johnny.
J'ai un problème, j'ai bien peur que je t'aime. Et là, elle connaissait tout le
répertoire. Ah non, mais les larmes de ma mère, elle a jamais... Pour elle, c'était surréaliste, quoi. Ma fille qui chante avec Johnny.
Mm-hmm.
Moi, j'ai rarement vu autant de fierté dans les yeux de ma maman, quoi.
Ouais, mais ça se comprend parce qu'en plus, ça continue. C'est pas tout parce que il y a le fameux que je t'aime. Pas longtemps après qu'il parte. Là, une fois qu'il est parti, ça a dû te faire bizarre parce que nous, on a retrouvé ça.
Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime.
a tous en nous quelque chose de Johnny, c'est ça?
Ouais, exactement. Et c'est un album qu'il a initié de son vivant. Il a malheureusement pas eu le temps de l'entendre fini. Je crois qu'il est parti avant que l'album sorte. Mais c'est lui qui a demandé à ce que je chante cette chanson.
Histoire de fou, hein?
Histoire de fou. Et moi, quand j'ai dit pourquoi moi cette chanson? Et j'étais enceinte de ma deuxième. J'ai cru que j'allais accoucher, quoi. Sérieux.
Ouais.
Bien avant l'heure. Hein.
Ouais.
Il faut l'envoyer, celle-là.
Ouais, ouais,
je me suis dit, c'est lui qui veut que je chante cette chanson, il faut que je lui fasse honneur.
Il faut être à la hauteur.
Être à la hauteur.
Voilà, écoute, ces petites années s'égrènent tranquillement. Et puis, on arrive avec des rencontres fantastiques, parce que ça continue, hein, c'est un truc de fou. Ta vie, je me rendais pas compte à ce point-là. Entre Slimane, entre évidemment notre pote Slimane, hein, on peut le dire, entre Attic, et puis il y a une rencontre de dingue avec Charlotte,
ouais,
surnommée Vita, ta sœur.
Trompée par mon cœur, trahie par ma sœur, la sœur en qui j'avais foi, confiance, et celle qui m'a menti. Aujourd'hui enfin est venue ton heure.
Ça, c'est vraiment ta sœur.
Ah oui, elle est devenue, par la suite, c'est bizarre, parce que quand je rencontre Diams, justement, il y a 20 ans,
ouais,
elle est déjà une des meilleures amies de Vita.
Ouais.
Mais nous, on n'a pas la connexion qu'on a aujourd'hui, par exemple. À ce moment-là, je ne peux pas l'expliquer.
Ouais.
On n'était peut-être pas assez mûrs pour se rencontrer, ou peut-être pas sur la même longueur d'onde à l'époque. Mais bizarrement, il y a 5 ans, on se retrouve à bosser dans la même équipe. Et en fait, c'est un coup de foudre, quoi. J'ai un coup de foudre pour cette nana. Je rencontre peut-être plus que la chanteuse, la maman, l'épouse. Il y a un truc qui fait que...
Oui, trois enfants aussi, pareil.
On est accouchés à 5 jours d'écart dans la même maternité le dernier.
Ouais.
On était ensemble, vraiment. Ouais. Notre grossesse ensemble. On a fait cet album Soror avec Amelia Jordana ensemble.
Ouais.
Aujourd'hui, je ne fais pas un disque sans qu'elle passe au studio. Alors, soit on coécrit des trucs ensemble, soit elle vient juste...
Elle passe une oreille.
Ouais, elle passe une oreille, elle vient, me donne des petits conseils. On discute, on parle musique, on parle couche, on parle... C'est vraiment devenu une vraie sœur, dans le sens où on a un parcours aujourd'hui qui se rejoint.
Mmh.
Voilà, et je pense que j'ai besoin d'elle à mes côtés aujourd'hui. Voilà, je me sens mieux quand elle est là. Ouais.
C'est beau, ça. C'est très, très beau. Alors, avant de laisser parler les auditeurs, parce qu'on va faire un jeu sur Amel Bent pour savoir si on connaît bien son Amel Bent avec les auditeurs, eh bien, il y a ta pub avant la pub. Alors là.
Sur Nostalgie,
on se tutoie.
Ta pub avant la pub.
Là, un truc de fou, nouveau single qui s'appelle Triste. On a une tournée de folie. Alors, c'est pas cette année, les gens. Moi, je suis toi, j'ai peur. Je vois. Lyon, la Altony Garnier, c'est énorme. Zénith à Montpellier. Le Dôme à Marseille. Zénith à Nantes, t'as vraiment pas peur. Hein.
Oui,
tu,
non,
peux te, tu peux te cacher. Le Zénith de Rouen, tu t'imagines. Le Zénith de Reims. L'Accor Arena, madame, ça va ou pas?
Franchement, j'ai du mal à croire qu'on parle de moi encore.
Là, on parle encore de Amel Bent, si vous venez de nous rejoindre. L'Arkea Arena à Bordeaux, le Zénith de Toulouse, le Zénith de Lille, de Dijon, de Bruxelles, d'Amiens. En plus, voilà, quand je dis que c'est une artiste internationale, c'est clair. Moi, j'ai peur à ta place. Tu te rends compte ou pas? Tu vas faire quoi dans un an?
Ah bah, je vais bosser comme une tarée pour faire la plus belle tournée possible et créer le plus bel écrin pour toutes mes chansons, parce que je vais chanter mes chansons depuis 20 ans.
Ouais.
Donc il faut que ce soit magique, et moi, pour moi, c'est le rendez-vous, c'est, il y a que ça qui compte, il y a que ça de vrai. Et c'est mon rendez-vous d'amour, c'est mon rendez-vous d'amour et des gens et de la musique. Enfin, pour moi, il n'y a pas plus bel endroit au monde que le rendez-vous de la scène. Donc,
Depuis 2-3 ans, tu t'étais mis entre parenthèses pour la famille, évidemment, pour les enfants. Ça t'a ressourcé? C'est comment, en fait, cet équilibre de la maman entre cette veille internationale du droit des femmes? C'est vrai que on va reparler évidemment de ces messages silencieux dont tu as parlé sur les victoires de la musique. Je t'ai trouvé vraiment très très élégante. Mais bon, sans faire de digression, l'équilibre maman professionnel, de gérer tout ça, tes factures de 2004.
Non, mais ça, je l'ai fait. Hein. J'ai coché la case, hein, les factures. J'avais des cartons depuis La Nouvelle Star. Quoi.
Ouais.
J'avais même mon premier cachet avant La Nouvelle Star. J'avais fait des chœurs pour un disque. Mmh. J'avais encore ça dans des classeurs rangés par ordre chronologique, alphabétique. Je sais pas pourquoi je gardais tout.
Ouais.
Et en fait, ça m'angoissait. Parfois, dans la nuit, je me dis, mais qu'est-ce que je vais en faire maintenant? Il y en a tellement que je peux plus juste les jeter à la poubelle. Il faut que je fasse un feu un vrai feu dans un bois et que je brûle tout ça, en fait.
Ouais.
Bon, bref, c'est pas très important.
Donc, t'as mis tout dans les 15?
Non, en fait, j'ai... On parle de mes factures, là, de 2004?
Oui, non, mais de ces 2-3 dernières années, entre la famille, parce que l'année prochaine, tu vas pas aller voir beaucoup, quand même.
Bah, j'avoue que là, la dernière tournée, par exemple, je suis partie sur les routes, mon fils avait un mois. Ça a pas toujours été facile. En même temps, c'est le métier que j'ai choisi aussi. Et puis arriver sur scène, je savais aussi pourquoi j'avais cette double vie. C'est parce que j'ai besoin de ces deux vies pour constituer la vie que je veux, qui me rend heureuse. Et je peux pas choisir. J'ai essayé de choisir. Quand je suis tombée enceinte de ma première, j'ai voulu tout arrêter. Et pendant 2 ans, ça m'a paru être logique parce que la maternité, ça remplaçait, ça venait combler des vides que j'avais en moi et que la musique peut-être comblait avant les enfants. Et puis tout à coup, j'ai ressenti les mêmes fissures, les mêmes failles et à nouveau la musique est revenue. Et en fait, maintenant, je sais que j'ai besoin des deux pour être heureuse. J'ai besoin d'être cette maman, j'ai besoin d'être cette artiste. Sinon, il y a quelque chose en moi qui est pas complet et qui me rend pas heureuse.
Je crois que c'est ce qui va séduire tous les gens qui vont venir te voir l'année prochaine. Mais tu vas bosser comme une malade pendant un an.
Mais je bosse déjà maintenant. Mais
même déjà
en studio, quand j'enregistrais l'album, je ferme les yeux et je suis déjà sur scène. Je sais déjà quelle lumière il va y avoir, je sais déjà exactement ce que
chorégraphie
je vais faire.
Chorégraphie et
tout? Non, pas de choré. Non. Ça, je l'ai fait sur une tournée à la sortie de Danser avec les Stars. Mais là, je voudrais vraiment me consacrer sur la musique. C'est un album qui est très musical, il y a beaucoup d'instruments qui ont été joués. Donc il va y avoir vraiment un gros travail. Peut-être que je vais bouger un peu, mais je veux dire, je sais pas s'il y aura de la choré, quoi.
On va en reparler dans un très court instant et on va bien évidemment lâcher le standard au 06 60 495 864. Le numéro de téléphone le plus
compliqué.
Dur à retenir du PAF. On n'a pas trouvé plus difficile. Et c'est ce qui fait un petit peu le piment de nos auditeurs. Et on va voir si un auditeur ou une auditrice connaît bien son Abel Bent sur On se tutoie ce soir. Faites attention sur les routes, on sait jamais.
Sur Nostalgie
avec Jean-Luc Reichmann tous les vendredis soirs 19h-20h et à tout moment en podcast sur l'appli Nostalgie.